Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone à nouveau pour une autre édition de Société. Et c'est non seulement un plaisir, mais aussi un sentiment de privilège de vous savoir à l'écoute à chaque semaine. Bienvenue donc, chers auditeurs. Un menu assez chargé aujourd'hui. Nous discutons dans quelques minutes avec Paul Saint-Pierre Plamondon, qui s'est annoncé comme candidat à la direction du Parti québécois. Beaucoup de questions à lui poser. Nous avons hâte de l'entendre. Et auparavant, nous jasons avec Frédéric Lacroix. Il est physicien, il est chercheur, il s'intéresse de très près à la question linguistique, bien sûr, à la situation du français au Québec. Et il tient, il faut le dire, un propos qui détonne un peu. Sans doute, vous nous direz, après nous avoir entendu, un peu plus pessimiste que ce qu'on entend généralement. Mais allons voir tout de suite ce qu'il en est. Bonjour, Frédéric Lacroix.
Bonjour.
Je vous ai présenté comme physicien. Je me trompe pas, là?
Oui, je suis physicien de formation, effectivement, oui, et c'est mon métier.
Et alors, de la physique à la langue, il n'y a qu'un pas?
Bien, la physique s'intéresse à la modélisation de la réalité. Donc, on modélise des systèmes en physique. On cherche à réduire la réalité à quelques variables pour comprendre comment ça fonctionne. Puis, moi, j'essaie de faire la même chose sur la question linguistique. Donc, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est ce que j'essaie de transmettre dans les textes que j'écris pour l'autre journal, par exemple.
Avant d'aller... Oui, c'est exactement, j'allais dire, c'est là qu'on peut vous lire principalement. L'autre journal, AUT apostrophe journal, ce journal dirigé par Pierre Dubuc, je crois, toujours,
oui, ou
je n'en suis pas certain. Bon, voilà.
Exact.
Et vous avez récemment, avant d'aller plus largement sur votre vision et les grandes conclusions que vous tirez quant à la situation du français, parlons de ces éléments que vous avez amenés dans l'actualité tout récemment sur la fréquentation des cégeps anglophones par les francophones et aussi, je pense, le cégep de Gaspé, qui est un indicateur intéressant dans ce dossier-là. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus?
Oui, donc moi, je m'intéresse à la question linguistique au sens large. Je suis très à l'affût des tendances, de ce qui se passe. Et chaque année, j'analyse les statistiques de fréquentation au niveau collégial à Montréal. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, les statistiques au collégial? Parce que les clauses scolaires de la charte de la langue française ne s'appliquent plus. Donc, ce qu'on voit dans les statistiques, c'est le libre marché linguistique qui s'exprime. C'est vraiment le rapport de force entre le français et l'anglais qui est libre de s'exprimer à ce niveau-là. Donc, quand on suit les statistiques, on a un indicateur assez juste du rapport de force entre les langues à Montréal.
Parce que là, c'est un choix libre.
C'est
les gens ne sont pas forcés à aller en français. Pour le dire
c'est
simplement.
Ça. Donc, si on regarde les statistiques d'inscription au primaire ou au secondaire, ça ne donne pas un indice du rapport de force entre les langues. Mais c'est pas vrai au collégial, on le voit. Donc, quand on suit les statistiques dans le temps, là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation, une accélération de l'augmentation de la fréquentation du collégial anglais qui est très, très marquée là, depuis 2013. En fait, ça augmente depuis 1995 de façon presque continue. Et là, depuis 2013, ça a vraiment décollé. Donc, globalement, au Québec, on est rendu à 19 % ça, c'est la place du collégial anglais. 19 % en anglais, puis 81 % en français. Puis,
ça, c'est la fréquentation générale par des francophones et des anglophones et autres. Là,
par tout le monde. C'est le nombre de places qui sont dans les cégeps anglais, c'est 19 %. Là, mm-hmm. Juste pour cadrer un peu la chose, les anglophones, langue maternelle, sont 8,1 % de la population. Donc, on passe de 8,1 à 19. Donc, on a, tu sais, une grosse marge, presque un facteur 3 en termes de place d'études au collégial en anglais relativement à la taille de la population anglophone au Québec.
Alors, 3 fois plus... Oui, c'est
ben,
ça.
J'arrondis, là.
Oui, d'accord. Est-ce que le mouvement s'accentue encore à l'université où on est dans les mêmes eaux?
Là, j'ai pas fait l'analyse pour les universités. J'ai pas ces informations-là actuellement. Est-ce qu'il y a une accélération de l'inscription? Moi, je croirais que oui, parce qu'on sait que le passage au collégial anglais est une sortie du système français généralement. C'est-à-dire que les étudiants qui font le cégep en anglais s'inscrivent à l'université en anglais de façon générale. Là. Pas tout le monde, évidemment, mais c'est la tendance, c'est le souhait que les étudiants expriment.
Et on dit vivront et travailleront davantage en anglais que leurs collègues ayant étudié en français par la suite. Est-ce que je me trompe là-dessus?
Non, vous avez parfaitement raison. C'est une importante étude qui avait été commanditée par la CSQ en 2010, qui avait conclu que, plusieurs choses, là, j'ai pas le temps de toutes les résumer ici, hein, mais c'est que, le passage au collégien anglais, c'était pas une immersion en anglais, puis après, bon, on continue le reste de notre vie en français. C'était vraiment un choix de vie. Puis le choix de vie, c'était de éventuellement travailler en anglais, c'est de s'intégrer au côté anglophone.
Donc, une forme d'acculturation ou de oui. transfert culturel. Mais là, dites-moi, il y en a qui vont vous répondre, malgré ce qu'on vient de dire là que ce n'est qu'ajouter des outils dans son coffre que de passer par une phase d'études en anglais, au cégep en l'occurrence ici, puis qu'il ne faut pas s'alarmer avec ça. Que répondez-vous? Peut-être qu'on vient d'y répondre avant que je vous pose la question.
Je pense que c'est une vision assez naïve parce qu'on sait par cette étude-là que la fréquentation du collégien en anglais, de façon générale, évidemment, ça ne frappe pas tout le monde. Tu peux trouver un contre-exemple, mais ça invalide pas mon propos. Ça a des incidences sur la langue de travail, sur la langue d'usage public. Les étudiants au collégien en anglais ont tendance à utiliser l'anglais comme langue de vie publique à Montréal. Ils ont tendance à travailler en anglais, etc. Leur consommation culturelle est orientée vers l'univers anglo-saxon, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le collégial anglais sert de foyer d'anglicisation à Montréal. Puis, ça, on peut le mesurer directement dans les recensements parce qu'en 2016, au recensement de 2016, on a mis en évidence une accélération de l'anglicisation des jeunes francophones à Montréal. Donc, l'anglicisation des jeunes francophones, on parle des 25-34 ans, a doublé depuis 2001. Donc, ça, c'est...
Partie des éléments que vous mettez dans votre portrait assez sombre de la situation. D'ailleurs, on va y revenir dans un instant. Terminons juste parce que j'avais ouvert sur la question du cégep de Gaspé. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus?
Bien, en creusant les statistiques, justement, de fréquentation collégiale, je me suis rendu compte que au cégep de la Gaspésie des Îles, il y avait 1583 étudiants internationaux d'inscrits en 2018. Donc, c'est un chiffre extrêmement élevé. C'est plus que la fréquentation générale du cégep. Là, c'est deux fois plus que le reste du cégep. Donc, c'est un chiffre vraiment... Le ministère m'a confirmé que c'était le bon chiffre. Le cégep aussi m'a confirmé que c'était le bon chiffre.
Alors, vous allez me dire que c'est parce qu'il y a un programme en anglais ou quelque chose comme
non,
ça?
Non, mais c'est dans le cadre du... On se rappelle que lors de la tentative de la réforme du programme d'expérience québécoise à l'automne, le cégep de Matane était sorti en disant que les étudiants internationaux, c'était une clientèle absolument névralgique et qui comptait sur eux et qu'on ne pouvait pas juste réformer le programme et faire fuir ces étudiants-là. Donc, au cégep de la Gaspésie, il y en a 1583, beaucoup plus qu'à Matane. Donc, en creusant le dossier, je me suis rendu compte que le cégep de la Gaspésie-des-Îles avait ouvert un campus à Montréal en 2017. Puis, ils sont passés de quelques étudiants en 2017 à 1583 en 2018. Puis, c'est un campus qui est exclusivement anglophone. Ce cégep-là a une section anglophone et francophone.
Alors, le chat sort du sac d'une certaine façon.
Pour
éclairer nos auditeurs, pourquoi un cégep de la Gaspésie prend une décision comme celle-là? Il y a des considérations financières? De quoi en retourne-t-il exactement?
Ben, je pense que c'est une décision pas mal clientéliste. C'est-à-dire que ces étudiants internationaux-là sont des étudiants payants. Ils paient, j'ai pas le chiffre de ce qu'ils paient. On me dit que ça tourne autour de 18 000 $ par année. Donc, ils prêtent des frais de scolarité très, très élevés. Donc, c'est un marché qui est très, très lucratif. Donc, le fond de l'histoire, c'est qu'il y a de l'argent à faire avec les étudiants internationaux à Montréal. Puis la demande de ces étudiants-là, elle est pour des formations en anglais.
On vient ici pour s'instruire en anglais. On vient mettre le pied en Amérique.
Ils ne sont pas intéressés à une formation en français, en tout cas, pas ceux qui fréquentent cet établissement.
Le temps nous bouscule. Revenons à votre portrait, au portrait assez sombre que vous brossez de la situation du français. Je vous ai lu récemment, vous parlez ni plus ni moins que d'une catastrophe notamment à Montréal et peut-être surtout à Montréal, ça détonne ça. Il y a des journalistes sérieux, des gens comme François Cardinal à La Presse ou Michel COG, Radio-Canada et ailleurs, qui ont toutes sortes d'arguments pour dire que non, alors il ne faut pas regarder seulement une partie des chiffres, mais l'ensemble du portrait, alors on se rend compte que il n'y a pas de quoi s'alarmer autant que vous le faites. Pourquoi êtes-vous aussi pessimiste?
Ben, j'aimerais corriger le mot, l'utilisation du mot pessimiste, parce que dans le contexte, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique linguistique. Dans ce contexte-là, c'est pas une question d'être optimiste ou pessimiste. Pour assurer la stabilité, tu sais, du poids des francophones au Québec, ça prend deux conditions. Il faut que le transfert linguistique que les allophones effectuent soit autour de 90 % en faveur du français, puis il faut que l'anglicisation des francophones soit nulle. Il faut que ces deux conditions-là soient respectées.
Alors ça, ce sont des conditions que vous édictez ou qui sont généralement reconnues dans le domaine linguistique?
C'est généralement reconnu, là.
D'accord.
Donc,
alors là, on n'est pas là du tout, si je comprends bien.
Non, on respecte aucune des deux conditions. Donc, il n'y a pas à être voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ce que je dis, c'est que là, on le voit d'après les recensements, les 15 dernières années, le poids des francophones langue maternelle est en chute libre. Au Québec, eh bien, c'est de 3,4 %. Le poids des francophones langue d'usage, donc langue parlée à la maison, est touché en chute libre. Il a baissé de 2,4 %. Tandis que le poids des anglophones langue maternelle est stable et le poids des anglophones langue d'usage augmente. Donc, on est dans une situation où tu sais, le poids des francophones baisse, le poids des anglophones monte. Donc, moi, c'est ce que je dis. Est-ce que c'est être pessimiste de dire ça? Je pense que ce mot-là est pas juste. C'est une constatation, là.
Je comprends. Alors, on pourrait parler d'un tableau sombre, en tout cas, sans qu'il soit nécessairement orienté. Il y a deux chiffres que j'ai retenus parmi une tonne de chiffres que vous mettez de l'avant dans vos très intéressants articles. Je prends la peine de dire, d'ailleurs, à nos auditeurs, il faut aller lire ça. Vous parlez d'un solde négatif en ce qui a trait au transfert à l'anglais de 30 000 personnes à Montréal, j'ai peut-être exprimé ça tout croche.
Oui,
là.
Sur l'île de Montréal, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il y a davantage, il y a davantage de francophones qui vont vers l'anglais que d'anglophones qui vont vers le français, et ce,
oui, c'est ça.
À hauteur de 30 000 personnes.
Oui, on parle d'un solde net, donc on prend les francophones qui vont vers l'anglais et les anglophones qui vont vers le français, parce qu'il y a des anglophones qui se francisent, mais ça se fait pas à Montréal, ça se fait à l'extérieur surtout. Donc, si on fait le bilan global, ben il y a 30 000 francophones de plus qui vont vers l'anglais. Donc, le solde net, c'est un mouvement du français vers l'anglais. Donc, le bassin d'anglophones est en train de croître dû au transfert non seulement des allophones, mais des francophones aussi. Puis sur l'île de Montréal, on note une accélération dans les classes d'âge. Les plus jeunes sont plus anglicisés que les plus vieux.
Donc, alors, ce qui indique une pyramide qui va aller en... Oui, bien
c'est
sûr.
C'est ça. Puis cette pyramide-là augmente dans le temps. Ça, c'est bien connu en démo linguistique. Les plus jeunes sont un indicateur avancé de ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans.
Et dans le même ordre d'idées, vous parlez du poids relatif des francophones à Laval.
Oui.
Qui est là aussi en baisse. Rappelez-nous les chiffres.
Oui, il a baissé de 15 % environ en 15 ans. Faut savoir que 15 % tu sais, Laval, c'est la deuxième ville au Québec. C'est gros. Quand on regarde le recensement en général, une baisse de 3 % 3,4 % du poids des francophones de langue maternelle au Québec, ça n'a jamais été enregistré dans aucun recensement depuis 1871. Donc, à 3,4 %, on est dans une chute en chute libre. Donc, à 15 %, là, je ne sais plus comment qualifier ça, là, je manque d'adjectifs.
Mais alors, bon, c'est Laval. On peut présumer que l'immigration est un facteur ici et que c'est peut-être une situation temporaire?
Non, parce que le poids des anglophones a beaucoup augmenté. J'oublie le chiffre, mais c'est autour de 4 %. Donc, c'est ce qu'on nous répète, ce qu'on nous a longtemps dit, c'est que oui, c'est normal, le poids des francophones va baisser, mais le poids des anglophones aussi, parce que l'immigration dilue tout ça, c'est un poids relatif, donc c'est pas important parce que ça va se redresser dans le temps. Mm-hmm. Mais là, ce qu'on voit, c'est que tout ça, c'est faux, parce que le poids des anglophones est en hausse et le poids des francophones est en baisse, donc ça contredit ce qu'on nous a répété pendant des années. Puis la raison pour laquelle le poids des anglophones est en hausse, c'est que les transferts linguistiques s'en vont de façon disproportionnée vers l'anglais au Québec. Là, on parle d'environ la moitié qui va vers l'anglais, alors qu'il constitue 8,1% de la population. Donc, si on prend pas conscience de ce qui se passe, puis on n'essaie pas de rétablir cette dynamique linguistique qui est défavorable pour le français, la situation va empirer là, à chaque année.
J'ai envie de vous demander, Frédéric Lacroix, vous êtes physicien, vous êtes beaucoup avec nous ce matin dans les chiffres aussi parce que je vous y amène. Est-ce qu'il y a derrière les constats que vous faites ou le travail que vous faites un aspect, et ce ne serait pas un défaut, bien au contraire, mais un aspect politique ou un aspect plus large? On parle du dossier linguistique, on parle de la langue comme si c'était un sujet en soi qu'on peut dissocier d'autres choses, mais est-ce que ce n'est pas le nom de quelque chose de plus vaste, la langue, dans le fond, qui s'appelle l'identité ou la nation? Est-ce que ce que vous êtes en train de décrire, c'est un affaiblissement national ou identitaire? Est-ce que je vous mets des mots dans la bouche en disant ça?
Ben, c'est sûr que la langue est un indicateur pour la culture. T'sais, moi, les statistiques linguistiques, la langue parlée, tout ça, ça m'intéresse, mais c'est vraiment un indicateur de ce qui se passe, ce qui se trame au niveau culturel en dessous. Donc, si le français recule, langue maternelle, langue d'usage, ben, on peut penser que la culture québécoise est aussi en régression.
Alors, c'est une question de rapport de force et de démographie, au fond.
Mais
de politique, ça veut dire que vous êtes probablement nationaliste ou, que sais-je, indépendantiste. Je vous pose la question parce que Paul Saint-Pierre Plamondon est assis devant moi, puis on va sûrement glisser sur le sujet de la langue un peu tout à l'heure.
Moi, ce qui m'intéresse dans cette question-là, ça fait longtemps que ça m'intéresse, c'est le décalage qu'il y a entre le discours officiel et la réalité. Quand on prend la peine de s'intéresser au dossier, on se rend compte que le discours officiel ne tient pas la route du tout. Puis plus on creuse, plus on voit qu'il y a des affaires qui ne collent pas. Puis il y a un vide incroyable dans l'espace médiatique pour un discours qui colle plus à la réalité. On nous serine des choses qui sont fausses, tu sais, comme histoire de, bon, il faut stopper l'exode des francophones en banlieue, puis ça va tout régler la question linguistique. On nous a dit ça pendant 20 ans, alors qu'on savait très bien que le poids des francophones en banlieue était aussi en baisse au même moment. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce décalage entre ce qu'on pourrait appeler la vérité, là, un peu pompeusement, et le discours officiel. Donc,
alors, j'ai pas réussi à vous faire de la politique, mais on entend très bien tout de même le sens de votre propos, Frédéric Lacroix. C'est très apprécié. On aura amplement de quoi se jaser plus longtemps si vous venez faire un tour à l'émission. Et puis, on essaiera aussi de vous trouver quelqu'un pour vous opposer un point de vue plus, je ne dirais pas optimiste, puisque vous n'êtes pas pessimiste, mais un point de vue autre, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct de Québec, je crois.
Oui, c'est bien ça.
Alors, c'est
merci
ça. Vous n'êtes pas un péquiste de Montréal-Centre qui voit la fin du monde francophone partout, là. Vous êtes...
Non, moi, dans ma ville, ça parle bien, bien français.
Très confortablement installé à Québec.
Oui. Oui.
Alors, merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, nous discutons avec Paul Saint-Pierre Plamondon, candidat à la chefferie du Parti québécois. Alors, vous l'avez peut-être connu lorsqu'il commentait l'actualité sociale et politique à l'émission de Marie-France Bazot, par exemple. Sinon, vous l'avez connu comme candidat à la direction du même Parti québécois en 2016. Peut-être qu'on pourrait le connaître davantage. D'abord, bonjour Paul Saint-Pierre Plamondon.
Bonjour.
Merci d'être ici ce matin ou cet avant-midi. Dites-nous un peu d'où vous arrivez, là, d'où vous venez. Je sais que vous êtes d'une famille qui n'était pas souverainiste. Vous avez voté pour le oui en 95, mais votre père ne voulait pas vous reconduire au bureau de vote. Oui. Je vous ai entendu raconter ça. Oui, plus largement, là, quelle sorte de milieu? Êtes-vous de Montréal?
Je suis trifluvien, mais qui a grandi à Montréal. En effet, ma famille est assez rouge. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, par contre.
Pas de honte, peut-être.
Non, mais
maintenant, vous êtes au PQ. Non,
c'est ça, c'est que mon père, ma mère avouent bien ouvertement aujourd'hui qu'ils ont voté non sur la base de fausses représentations. Lorsqu'on parle de 95 avec mes parents, ils vont dire on a fait ce qu'on pensait qui était la meilleure décision parce qu'on se faisait promettre ci, ça, ça, et ça nous donnait espoir qu'en fait, tu sais, pensons au Lovin, supposons, là, mais il y a eu toutes sortes d'événements dans cette campagne-là qui font en sorte qu'il y a des gens de bonne foi qui ont voté non en pensant que ce qui était représenté était vrai.
Comme en 80, sans doute, lorsque Pierre-Éliott Trudeau met son siège en jeu.
Il va en avoir du changement. Bon. C'est ça. Mais pour autant, avec le temps, je pense que leur opinion a changé. Je suis un gars qui a été éduqué dans des milieux assez anglo, on peut dire. Là. C'est-à-dire, tu sais, je suis diplômé de l'Université d'Oxford. Là. Tu peux pas faire plus Harry Potter que ça. mon droit à l'Université McGill, etc.
Frédéric Lacroix va être fier de vous, mais...
Oui, mais en fait, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, là, puis je l'ai vécu moi-même. Là. C'est en effet le cas que lorsqu'on s'anglicise, d'une part, c'est parce qu'on n'a pas confiance qu'on peut faire une carrière en français seulement, donc on sent l'obligation d'avoir l'anglais. Donc là, ça revient à la proposition récente du PQ en disant « mais on va arrêter de demander l'anglais pour tous les emplois parce que ça devient à ce moment-là une espèce de
un peu aliénant,
frénésie
oui.
où est-ce que tout le monde se pense qu'il doit absolument maîtriser l'anglais pour des emplois qui... » Mais il y a aussi, après, c'est qu'on baigne dans des milieux où le conformisme avec le statu quo est très, très fort. À travers bazo.tv, là, j'ai...
Attendez, en allant s'instruire dans des milieux anglophones...
Non, une fois, dans le marché du travail, le point de M. Lacroix qui est vrai, c'est qu'on va plus naturellement vers des milieux qui utilisent l'anglais.
C'est ça.
Et dans le cadre duquel, à ce moment-là...
Vous avez dit conformiste, alors
exactement,
là,
le conformisme à l'ordre canadien...
Ah oui, bien sûr.
...devient
oui.
une norme qui n'est jamais remise en question. Là. Mm-hmm. Puis, on le voit bien. Puis moi, mon passage au Parti québécois a été... ça m'a ouvert les yeux, là, parce que du jour au lendemain, quand tu t'affiches indépendantiste, il y a des conséquences professionnelles, il y a des conséquences sociales au Québec. Donc, on n'est pas dans une société de liberté d'expression, autant qu'on veut bien le dire, parce qu'aussitôt qu'on occupe un emploi, il y a quelqu'un pour nous dire, que ce soit son patron, le directeur des communications, il va y avoir quelqu'un pour nous dire si tu veux continuer à avancer ou si tu veux ne pas déranger l'entreprise, on s'attend à ce que tu ne parles pas de politique, surtout pas du côté bleu. Si tu vas dans des événements libéraux, ça, c'est socialement acceptable.
Alors, vous avez vécu ça, vous?
Ben, depuis 2016, oui. Donc,
mais terminons sur votre milieu.
Ouais,
pauvre, riche, moyen?
Moyen. Mon père, directeur de la Fédération de tennis de table du Québec. Ma mère, responsable de l'éducation continue chez les adultes au cégep, puis ensuite fonctionnaire. Donc, mais je viens d'une famille qui a beaucoup toujours axé les choses sur l'éducation. Donc, mon grand-père, Paul Plamondon, qui était président de la Chambre de commerce de Québec, puis propriétaire de toutes sortes d'entreprises à Québec, disait tout le temps « la vraie richesse, c'est entre les deux oreilles ». Puis ça, mon père me le répétait, etc. Donc, on a toujours eu une évaluation de la richesse qui est autrement que par la grosseur du véhicule qu'on a. Puis pour revenir à mon récit, c'est que à travers bazo.tv, là, j'ai commencé à reconnecter avec le milieu indépendantiste que j'avais complètement... tu sais, j'avais aucun lien. J'avais pas d'enthousiasme non plus. Mais c'est à force de côtoyer des chroniqueurs, des vrais politiciens. J'ai rencontré Jacques Parizeau en attendant son entrevue. Il m'a jasé pendant 10-15 minutes. C'était fascinant, mais Camille Bouchard, Joseph Facal, plusieurs chroniqueurs aussi qui sont ouvertement indépendantistes. Ça m'a influencé, évidemment. Puis au final, j'ai toujours eu une admiration pour René Lévesque, même quand j'étais tout jeune. Et malgré l'espèce de période d'ambivalence que j'ai eue, j'ai toujours pensé que le juste chemin, c'était celui qui était tracé par un démocrate puis quelqu'un au service du Québec comme Lévesque. Puis ça s'est revenu tout le temps dans ce que j'ai fait dans mes écrits. Alors, là, c'est là que j'étais arrivé en 2016.
Ben, arrivons justement à l'implication en politique. Et là, il faut que je vous pose cette question-là. Vous commencez par fonder le mouvement des orphelins politiques.
Exact.
En, d'une certaine façon, marquant une distance par rapport à ce qu'on appelle les vieux partis, qui vous ne convenaient pas de toute évidence,
non.
Incluant le Parti québécois à ce moment-là. Mais vous faites quand même, tout de suite après le départ, je crois, de Pierre-Carl Péladeau, le saut vers le Parti québécois.
Oui.
Alors, il y a déjà un premier virage qu'il va falloir expliquer, mais je vais tout de suite au second virage. On va faire tous les virages d'un coup. vous arrivez au PQ en disant En tenant le discours assez convenu à ce moment-là au Parti québécois, qui est de dire, bon, l'indépendance, les Québécois sont pas tout à fait prêts à entendre parler de ça, faut pas tirer la fleur pour la faire pousser, soyons d'abord un parti qui propose une bonne gouvernance provinciale, et dans un second temps, on pourra ensuite récolter les fruits de nos bons coups et peut-être construire le contexte favorable au référendum. Bon, j'essaie de synthétiser.
C'est exactement ça.
Et là, maintenant, vous dites, alors ça, c'est le deuxième virage, un peu le contraire. Vous dites, bon, finalement, ça nous a pas souri. En fait, le Parti québécois ne sert à rien d'une certaine façon s'il n'est pas orienté en fonction de son idée fondamentale qui est l'indépendance. C'est quand même... Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, dont je pense à Frédéric Bérard dans cette émission la semaine dernière, qui vous trouve opportuniste?
Oui. Un parti qui fait 17 % aux élections, là, quand on parle d'opportunisme, là, au contraire, quand on demeure dans un parti qui n'a pas le vent dans les voiles, on le fait parce qu'on est convaincu de l'idée fondamentale. Là. Sinon, on va ailleurs ou on n'en fait pas.
Mais vous disiez quand même le référendum dans un second mandat, puis il y avait des conditions.
Revenons à la première question, les orphelins politiques. Oui. Donc, en effet, dans les orphelins politiques, qui est un livre et qui était un regroupement, ce que je dis essentiellement, c'est que dans la population, il y a une grande proportion de gens qui ne voient pas la pertinence de la souveraineté parce que le feu est pris. Ça porte beaucoup sur l'ère Charest et ce que Couillard nous préparait. Le livre explique, à juste titre, en rétrospective, je pense que l'analyse était juste de dire il ne peut pas y avoir de place pour l'instant pour l'indépendance parce que le feu est pris. Il y a un sentiment de panique où les institutions québécoises sont corrompues, affaiblies, les inégalités, les mesures qui sont mises en place par ce gouvernement toxique qui est celui du Parti libéral du Québec, font en sorte que les gens vont chercher une solution dans l'axe des mesures sociales puis de la gouvernance. Et c'est précisément ça que je suis venu dire lors de la course à la chefferie de 2016 en disant le choix, je l'ai fait, je suis indépendantiste et je suis d'accord avec cette idée-là. D'ailleurs, quand on écoute les discours des orphelins politiques, quand j'avais recueilli à peu près 350 personnes pour le lancement, je parle de René Lévesque tout le long, là. Puis il y avait des gens qui disaient, est-ce qu'on fait un NPD Québec ou est-ce qu'on fait un nouveau parti, etc. Moi, j'ai jamais pensé qu'on pouvait, de manière responsable et intelligente, fonder un parti au nom des valeurs de René Lévesque qui soit indépendantiste juste à côté du PQ. Ça aurait été un autre épisode où on nuit à la maison mère, on nuit. Donc, j'ai fait...
Mais ça, c'est si tant est que votre mouvement était indépendantiste, mais ça n'allait pas de soi tant que ça, d'après ce que je comprends à ce moment-là.
Il y avait une forte proportion de gens qui disaient « je suis indépendantiste ».
Je
ne
veux pas vous faire un test de pureté indépendantiste.
Non,
c'est pas ça, c'est pour voir la cohérence.
Oui, oui. Mm-hmm. Mais le consensus, c'était il n'y a pas d'espace en ce moment pour ça parce que le feu est pris. Et l'élection de 2018 donne raison à cette analyse-là de l'époque. Moi, j'ai écrit « Les orphelins politiques » en 2014. C'est précisément ça qui s'est produit. Le vote n'allait pas porter pour ça, il n'y avait pas d'espace. Mais dans le même livre, je prédis que la question d'indépendance va revenir en force par après, qu'elle est appelée à revenir en force parce qu'elle est structurelle et on peut essayer de mettre le couvercle sur la marmite, on peut essayer de gâcher les institutions, mettre le feu de manière à faire une diversion. Mais à un moment donné, ces questions-là étant structurelles, elles vont revenir. Et ça, je l'explique, je parle des origines du Parti québécois, etc. Donc, c'est un mouvement qui était quand même très relié au Parti québécois. On parlait beaucoup de comment le Parti québécois pourrait faire pour revenir en force. Et donc, on arrive à la course à la chefferie et s'installe, en effet, dans le Parti québécois un consensus comme quoi, pour les élections de 2018, on est mieux de parler de tout ce que le PQ a fait de positif en termes de bon gouvernement et de dire, oui, on est indépendantiste, mais on va se donner 4 ans pour éteindre les feux et redonner un minimum de confiance.
Bien, c'est déjà ce que les gens du PQ disaient dans les élections précédentes, les quelques élections précédentes aussi. Il faut d'abord sortir les libéraux parce que ça presse, il y a eu péril en la demeure. Ouais. Puis l'indépendance, parce que c'est quand même le sous-texte, ou même des fois le texte tout court, l'indépendance, ça fait peur au monde. Hein? Ça va nous empêcher d'accomplir cette mission de débarrasser le Québec des libéraux. Est-ce qu'il n'y avait pas une erreur dans ça? Là? C'est-à-dire qu'un parti, prenons un parti vert conservateur qui dirait aux gens on sera conservateur ou vert dans un second mandat. Pour le moment, il y a des choses plus urgentes comme par exemple se faire élire.
Ça fait pas très convaincant.
Ça fait désordre un peu, non? Et ça démobilise.
Oui. Puis là, on va arriver à ma position actuelle. Mais il faut quand même pas jeter la pierre. Il y avait un dilemme très légitime au sein du PQ. Lorsque le Parti libéral sabote la langue française, on vient d'en parler avec Frédéric Lacroix, c'est le fruit des politiques libérales, ce dont on parle aujourd'hui. Puis on le voyait aller. On peut comprendre les péquistes qui disent « Là, on va prendre le pouvoir puis on va s'arranger pour colmater toutes ces brèches-là parce que c'est du pur sabotage. » Mais malheureusement,
Ça a été finalement le triomphe de François Legault, ça.
Exactement.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit, au lieu de dire « je suis souverainiste, mais plus tard », alors il assume complètement de faire les choses en deux temps, ou même pas de temps du tout, plus d'indépendance dans son cas, ce qui, le dédouane d'une sorte de duplicité ou de ça le débarrasse.
Bon, on arrive à l'élection de 2018. Moi, je suis d'accord que... En fait, les probabilités pour le PQ de prendre le pouvoir après la course à la chefferie étaient bonnes. On formait même un gouvernement minoritaire à un moment donné dans les sondages. Faut se garder de faire des analyses avec un seul facteur. Là. Mm-hmm. La défaite est multifactorielle. Mais se pose la question le lendemain de l'élection, avec le résultat qu'on a obtenu, est-ce qu'il y a une bonne raison, des circonstances qui justifient à nouveau de dire, là, c'est plus 2022 comme je vous l'ai dit la dernière fois, là, ça va être 2026 parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Puis moi, mon analyse, c'est de dire, j'avais dit 2022, et le lendemain 2018, je me dis, je vois aucune raison de le reporter, et ça nous permettra de tester l'hypothèse que vous venez d'énoncer, à savoir, il y a bel et bien un facteur de démobilisation quand on arrive à un débat des chefs, ou on arrive en campagne, puis on dit, je suis un fier indépendantiste, mais il n'y en aura pas de référendum, faites-vous-en pas. C'est un peu comme dire...
C'est oui, mais non. C'est,
avant c'est oui, mais non. C'est très difficile à
porter. Mais moi, je suis pas en train de vous dire que l'indépendantisme assumé, c'est le passeport pour la gloire. Hein, peut-être pas du tout.
Non, mais moi, je suis en train de vous dire qu'on a fait ce choix-là au Parti québécois. Moi, je l'ai fait individuellement en observant aussi comment la discussion sur la mécanique référendaire fonctionnait. Il y a de l'apprentissage aussi dans la course 2016, où est-ce que je me suis rendu compte que ce qu'on appelle l'obsession référendaire, qui est très, très dérangeante pour monsieur, madame, tout le monde qui écoute, ça vient aussi de propositions qui sont assez complexes ou ambiguës pour que le journaliste, tout le temps, revienne sur cette mécanique-là, ce qui empêche complètement de discuter de pourquoi on est indépendantiste et quels facteurs nous amènent à penser qu'il faut réaliser ce projet-là.
En effet, en voulant pas parler de la question, on passe son temps à parler.
On parle que de la mécanique.
En effet.
Et donc,
mais donc, vous dites que vous êtes dans une continuité, en fait. Vous appliquez le même principe. En 2018, la même raison pour laquelle il fallait mettre ça de côté devient celle pour laquelle...
Ben oui,
désormais.
Ce que je dis, c'est que le contexte change. Donc, ce serait complètement fou que sur la base d'un livre de 2014, je vous dis aujourd'hui à votre micro, il faut sortir les libéraux puis que je vous refasse l'argumentaire de 2014.
Ben alors, continuons dans la même logique.
Les circonstances ont changé et ça devient une opportunité pour le Parti québécois.
Si dans l'avenir, je suis certain que les militants du PQ veulent savoir ce que vous pensez là-dessus. Si dans l'avenir, la situation apparaît de nouveau ou on a un gouvernement que vous considérez toxique, dont il faut se débarrasser au plus vite, allez-vous à nouveau dire, bon, ben écoutez, l'indépendance, pensons-y un peu plus tard. Pour le moment, il y a urgence.
Non, parce qu'on est en phase... on va devoir rebâtir le Parti québécois. Ça me semble très apparent. Il y a une volonté en ce sens-là. Et on a l'opportunité, finalement, de le bâtir de la bonne manière en fonction non pas de l'objectif du pouvoir, mais en fonction de l'objectif, la finalité du Parti québécois, qui est de réaliser le pays. Donc, une fois qu'on s'engage là-dedans, et moi, j'ai la forte impression que c'est là-dedans qu'on s'engage, on en a pour un certain nombre d'années, n'importe où, entre 2, 6, 10 ans, mais on sait que l'aboutissement de notre manière de bâtir, c'est le moment de vérité. Et à mon avis, le pari, c'est de dire on va obtenir plus de talent, plus de coopération de la société civile, en étant transparent, clair, quitte à ne pas contrôler tout le contexte, parce qu'on sait, que, par exemple, que Meach a joué un rôle important dans l'aboutissement de 95, dans l'existence du référendum de 95, il y a des circonstances qu'on ne contrôle pas en politique.
Quelqu'un pourrait vous répondre que Jacques Parizeau et ce qu'il représentait a été une forme de catalyseur dans la catastrophe Meach aussi. Hein, donc, ça se joue.
Les deux. Puis déjà, en une semaine et quelques, où est-ce que j'arrive puis je dis, moi, mon slogan, c'est oui. Puis ma réponse, elle ne peut pas être plus claire que ça. Là. Vous déclenchez le processus d'accession au pays si vous votez Parti québécois, puis si j'en suis le chef. Déjà, on voit que la discussion sur les biens fondés de l'indépendance prend plus de place parce que ça devient actuel, ça devient très, très concret. Donc, les gens doivent un peu commencer à réfléchir à nouveau. Qu'est-ce qui arriverait?
Là, vous parlez d'un référendum dans un premier mandat. On a entendu Guy Nantel dire la même chose hier à Tout le monde en parle, d'une première moitié d'un premier mandat. Il y a Stéphane Hanfield aussi qui tient ce genre de propos. Donc, on voit qu'il y a un mouvement vers ça.
Les militants le disent aussi.
Il faut conclure sur ce sujet-là parce qu'il y a plein d'autres choses à traiter. Mais je ne veux pas réduire ce que vous me dites à seulement ça, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce que vous me dites l'idée de dire finalement, on n'a plus rien à perdre au fond. On est rendu tellement bas que là, il faut remobiliser la base. Et si c'était juste ça, votre volonté, on pourrait comprendre les militants péquistes de dire « Ouais, mais bon, Paul Saint-Pierre Plamondon, peut-être que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque le pouvoir redeviendra à portée de main, on abandonnera de nouveau, on mettra un peu en veilleuse l'option. » Je me répète, je ne veux pas vous faire répéter. Mais...
Non, mais je vais te dire quelque chose que je n'ai pas dit. Le Parti québécois a grandement besoin de stabilité. Il y a un effet essuie-glace là, qu'il faut arrêter à tous les niveaux. Et ça passe par la stabilité du chef, ça passe par la stabilité des messages, parce que moi, en porte-à-porte, ce qui ressortait beaucoup dans Prévost, c'est on ne sait plus pourquoi on devrait voter pour vous. Là, il y a comme trop de messages, puis en même temps, il y a aussi une prise de conscience, je pense, dans les résultats décevants que le Parti québécois a obtenus, que si on n'est pas stable et constant, d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé dans Oser repenser le PQ de ça, si on n'est pas stable et constant, on ne peut pas reprocher aux gens de nous dire, ben là, pourquoi je voterais pour le PQ si je ne comprends plus rien? Là?
Donc, bref, la ligne claire est durable.
La ligne claire, mais constante.
C'est ce que vous me dites. Oui, d'accord. Un des effets délétères du louvoiement autour de l'idée fondamentale du Parti québécois, c'est un phénomène que Jacques Parizeau décrivait déjà dans les années 80, c'est-à-dire une espèce de désagrégation de la coalition péquiste. Les gens de gauche sont retournés à gauche, les gens de la droite sont partis à droite ou à la CAQ ou les plus conservateurs, par exemple. Il y en a même qui restent encore au PQ, il faut le dire, dans les deux cas. Mais cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est produit à la fin des années 80, on est allé beaucoup plus loin. Là. Québec solidaire est là, désormais. Jean-François Lisée a voulu faire une convergence avec ce parti. Certains disent que ça a été nuisible, avant même qu'on se penche sur la question de la réussite ou non de la convergence, du simple fait de s'être rapproché de Québec solidaire.
Il y a une corrélation avec les intentions de vote.
Bon.
Cet épisode-là coïncide avec une chute des intentions de vote.
Ma question est, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un objectif à viser de nouveau, se rassembler avec un ou l'autre
des
partis?
Non, on ne peut pas. Faut se mettre aussi dans la peau, à l'époque, là, dans le contexte. On reprochait régulièrement au Parti québécois de ne pas tenter des collaborations avec d'autres partis. C'était toujours le PQ qui était sur le banc des accusés. Mais la mauvaise foi qu'a exhibé QS dans cet épisode-là est surréelle, là.
Mais est-ce que ça vous étonne vraiment, vous? Parce que quand on fonde un parti, c'est pas pour revenir au PQ à la première occasion.
Bien sûr, mais...
Peut-être encore moins quand c'est Jean-François Lisée et qu'on a comme l'impression qu'il y a des manœuvres et des calculs.
Bien sûr, mais ça a quand même atteint un point de se dédier de ses signatures, insulter, traîner dans la boue l'autre parti. C'est des niveaux qui font en sorte qu'on reviendra jamais. Là. Moi, je peux pas croire, là, dans le sens que... Le Parti québécois...
Mais là, vous êtes dans l'affect, là. Est-ce qu'il y a quand même politiquement... est-ce qu'il y aurait des raisons, selon vous, ou est-ce que, sur la question des idées, là, il y a un problème
ben, si on regarde en
dans
avant,
un rapprochement? Et aussi la question de la rentabilité politique, si je peux m'exprimer bassement.
Si on regarde en avant, je ne vois pas Québec solidaire porter le projet de pays avec crédibilité, pour toutes sortes de raisons. Autant leur historique que la proposition qu'ils ont en ce moment, ça me semble être la meilleure recette pour que ça ait jamais lieu. Le Parti québécois, les militants, tout le monde est en train de se dire « on a le goût de rebâtir, mais sur les bons fondements, sur nos fondements à nous ». Donc, je ne vois pas dans ces circonstances-là comment le PQ va recommencer à négocier ou à parler à d'autres formations politiques.
Parce que quand
On peut être d'accord des fois avec une autre formation politique sur un point.
Ben, quand on écoute Frédéric Bastien, un de vos adversaires officiels, on pourrait se dire « ma foi ». Une fusion avec la CAQ est possible aussi,
ben
parce que c'est le nationalisme de la province de Québec.
Frédéric Bastien, dans un débat à l'IRQ, je lui ai dit « ta proposition est intéressante, va à la CAQ, va dans un parti qui croit au fédéralisme encore. »
Parce qu'il veut tenter une négociation constitutionnelle.
Va tenter de réformer le Canada. Mais au Parti québécois, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on observe ces dysfonctionnements-là. Non seulement on y croit pas, mais en plus, il n'y a personne qui va nous croire.
Alors, ça veut dire que si on veut le faire, c'est plutôt
qu'on veut
parce qu'on
avec le Canada,
on veut avoir un échec, non? C'est ça l'idée.
Ben, moi, je dis juste que lorsqu'on est un parti indépendantiste, on se comporte que tel quel, on ne va pas négocier avec le Canada. Mais il y a des forums qui pourraient faire ça, notamment la CAQ. On n'est pas obligé d'être en porte-à-faux tout le temps avec les autres partis. Donc, si la CAQ fait des demandes au nom du Québec, on ne se mettra pas à saboter l'intérêt du Québec. Mais moi, ce que je pense qui s'en vient, c'est que la CAQ va essuyer revers par-dessus revers par-dessus revers, ce qui va ramener dans l'espace public la question de la légitimité de l'indépendance du Québec. Et c'est ça la fenêtre pour le Parti québécois. C'est ça la manière
qui vient
de
en mangeant, en quelque sorte.
Ben,
c'est-à-dire
parce que...
Ou alors, on n'a pas assez à manger. La faim justifie les moyens.
Être tanné de se faire gifler, là. Mm-hmm. À un moment donné, ta joue est enflée puis t'es tanné.
Complétons le dossier Convergence, Québec solidaire et compagnie, là, ouais. Les autres peut-être. La question de la proportionnelle, la réforme du mode de scrutin, plusieurs voient là. Je pense à récemment Michel David dans Le Devoir, ce chroniqueur d'allégeance plutôt souverainiste, qui dit, bon, ben il faudrait, c'est peut-être la seule façon de faire travailler ensemble ou de joindre les forces de Québec solidaire, qui demeure souverainiste, même si on peut critiquer sa démarche, et du Parti québécois. Ouais. Puis, vous avez des nationalistes comme Christian Dufour qui disent, non, les francophones, le Québec français a trop à perdre dans une telle réforme, parce que ça nous ferait perdre une sorte d'avantage qu'on a dans le système actuel.
Mais je vous surprendrai pas si je vous dis que je vais faire une sortie formelle pendant la course à la chefferie, mais voici les questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui explique qu'on a été pris avec un gouvernement libéral aussi longtemps alors que ce parti-là travaillait contre les intérêts du Québec?
Donc, vous êtes en faveur de la proportionnelle.
Mais ce que je vous dis, c'est que lorsqu'on lit les argumentaires de Frédéric Bastien, de Christian Dufour, il faut se poser la question, les gens qui votent QS, qui votent CAQ et qui votent PQ, sont-ils des non-francophones? Est-ce que c'est enlever le pouvoir aux francophones que d'obliger un dialogue entre trois partis qui s'appellent QS, la CAQ? Moi, ce dont je m'inquiète énormément, c'est la possibilité, avec les changements linguistiques et démographiques que Frédéric Lacroix nous disait tantôt, la possibilité avec 15 % du vote francophone éventuellement de prendre le pouvoir et de faire absolument tout ce qu'on veut lorsqu'on est le Parti libéral du Québec.
Autrement dit, le système actuel avec l'espèce de primo vainqueur qu'il donne...
Ça prend pas grand-chose.
...peut provoquer comme ça des distorsions.
Pour prendre le pouvoir.
Le pouvoir
n'a pas de contrepoids.
L'argument inverse. Le Parti québécois a déjà été au pouvoir avec moins de votes que les libéraux. La CAQ, aujourd'hui, contre toute attente d'une certaine façon, montre que les francophones peuvent encore se donner un gouvernement malgré le vote plus monolithique.
Mais c'est très mal comprendre la proportionnelle mixte. Celui des trois partis qu'on vient de nommer, QS, CAQ et PQ, qui a le plus haut taux, ils vont ensuite additionner CAQ, QS, ils vont être obligés de se parler, mais c'est certain, c'est mathématiquement une certitude que le pouvoir va revenir à ces trois parties-là. Alors que dans le système actuel, c'est toujours un jeu de... si on était à deux parties, je comprendrais totalement l'argumentaire. Mais à quatre parties, c'est un jeu de roulette où est-ce qu'on ne sait pas finalement qui va être assez chanceux pour dépasser la marge de 35 % d'intention de vote ou de vote pour un parti. Mm-hmm. Ça devient très aléatoire. Donc, moi, je pense qu'il faut reposer ces questions-là avant de dire que le vote francophone est en train de s'effondrer si on fait ça. Il faut également se demander, le Parti québécois en est où là-dedans? Parce que le Parti québécois, c'est un parti de membres, c'est un parti démocratique et c'est un parti qui a signé une entente avec d'autres partis sur ce sujet-là. Donc aussi, il y a des limites à ne pas respecter les membres puis le processus démocratique. Si le PQ se dit, on reprend le débat dans un an ou deux ans, on ressent le besoin à nouveau d'en parler, pas de problème, c'est un parti de membres. Et on aura le débat à nouveau, moi, ça me fait plaisir.
Démocratie interne.
Mais là, il va falloir aussi respecter les membres, là, parce qu'on n'a pas des débats pour le fun au Parti québécois. On les mène, puis ensuite, on a une position, puis il faut être respectueux des membres, quitte à rouvrir une question si jamais il y a un malaise ou un changement de circonstance. Ça, c'est normal en politique.
Mm-hmm. Revenons un instant sur la question du référendum. Faut bien en parler, parce que c'est quand même... ça a été au cœur de votre lancement de campagne. Vous dites... Fini les tergiversations, il est logique que si un jour nous prenons le pouvoir, ce soit muni d'une promesse de référendum sur l'indépendance.
Oui, déclencher le processus.
Voilà. Déclencher le processus, mais c'est ça, pour faire un référendum
dans un
mandat, évidemment.
Exact.
Bon. Vous allez trouver sur votre chemin, non seulement, bien sûr, ceux qui disent que le référendum, ça fait peur au monde. Vous avez eu Sylvain Gaudreau encore hier qui disait « Je ne suis pas référendiste, je suis indépendantiste », comme si l'un... pouvait aller sans l'autre. En tout cas, d'après ce que je comprends, moi, le référendum est le passage obligé dans le programme du PQ pour aller à l'indépendance. Enfin, bref, vous allez avoir des objections de ce côté-là tout de même. Hein? Pendant plusieurs années, au PQ, on s'est habitué à dire « faut pas parler du référendum, ça fait peur au monde
».
Et vous avez aussi, à l'intérieur du Parti québécois et du mouvement indépendantiste, des gens qui ont, eux aussi, une dent contre le référendum, mais d'une autre façon, eux. Et vous en avez probablement côtoyé. Ils pensent que c'est un complot de Claude Morin, cette affaire-là, puis que c'est un piège, que c'est une exigence trop élevée, d'une certaine façon, et qu'il faudrait réaliser l'indépendance par petits bouts jusqu'à ce que, finalement, plus tard, on fera un référendum pour
Parizeau
avaliser.
Avait proposé ça.
Et c'est ce qui est arrivé à Québec solidaire. Je termine là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, Parizeau, pendant un moment, a
au
flirté.
Au début, je pense qu'il disait « je vais faire des petits référendums par sujet, par secteur. » Exact,
ouais,
les référendums sectoriels.
Mais
puis ensuite, il a abandonné ça parce que c'était pas source de mobilisation. Puis, ultimement, ce que les gens veulent, c'est que cette question-là soit derrière nous puis qu'on ouvre un nouveau chapitre qui est excitant. Donc là, quand on dit un nouveau pays, on peut parler avec enthousiasme, là, mais je suis pas sûr de la...
Mais vous allez vous rendre compte que les gens qui pensent comme ça conditionnent beaucoup les débats à l'intérieur du Parti québécois. Ils ont, par exemple, beaucoup contribué au départ de Bernard Landry, qu'ils considéraient comme un référendiste.
Je pense qu'il faut réfléchir sérieusement.
Bref, vous, c'est un référendum.
Moi, je suis tradition Lévesque, tradition Parizeau, dans le sens que... Il faut penser à la suite aussi. Là. Si on prend le pouvoir avec 34 % des voix, puis on déclare le pays, en droit international, là, on n'a pas des assises solides pour la reconnaissance d'autres nations. Là. Donc, réussir le pays, c'est pas juste réussir l'étape qui nous permet de déclarer le pays. Là. C'est que la transition doit se faire de manière rigoureuse, solide. La reconnaissance des pays à l'étranger doit se faire. Toutes les questions économiques doivent s'enclencher rapidement. Il y a énormément de réflexions pour que le projet... aux yeux de la population, soit un succès probable. Donc, moi, l'idée de l'élection référendaire, je comprends que c'est tentant parce qu'on voudrait tous trouver le raccourci.
Oui, l'élection là, décisionnelle. C'est-à-dire que dès qu'on est élu, on fait une déclaration à l'Assemblée nationale ou en tout cas, on enclenche un processus sans passer par le...
Je pense que dans un contexte où on doit réhabiliter dans l'espace public québécois la légitimité de l'idée d'indépendance, parce qu'en ce moment, c'est toujours présenté de manière... Il y a toujours un mépris, je trouve, autour de ce projet-là qui pourtant est tellement fondamental et tellement beau. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est d'arriver avec quelque chose qui n'est pas trop compliqué, mais qui est très concret. Donc, pas d'histoire de... C'est ça, pas de raccourci. Quelque chose qui est légitime sur le plan de l'équité et qui est clair et donc qui est susceptible de mobiliser. Moi, je pense que c'est ça notre meilleur...
Allons sur le Parti québécois et sa structure et sa culture, parce que vous êtes l'auteur du rapport « Oser repenser le PQ
»,
à travers lequel vous n'avez pas fait plaisir à tout le monde. Hein? Il y a Marc Laviolette qui trouve que vous le faites passer pour une vieille sacoche.
Oui, ça revient. Ça revient tout le temps.
Ça a fait tâche, ça, un peu, l'impression qu'on a eue que vous vouliez sortir les gens plus âgés du Parti québécois. Qu'est-ce que vous gardez de tout ça à ce moment-ci?
Il ne reste plus rien. Tout ce qui reste, c'est que là, toutes les générations sont au poste, puis ils font exactement ce que je souhaitais dans le rapport.
Ah, vous trouvez que la réforme a été faite?
Ah, il faut être là à Trois-Rivières pour le constater. Là. Quand la déclaration de refondation a été faite, ce qu'on avait sur le plancher, c'était toutes les générations qui travaillent en intergénérationnel. Il n'y a eu aucune friction, aucun claquement de porte. On y est arrivé. Quand on dit que l'exécutif national, la moyenne d'âge est autour de 35 ans, c'est un fait. Et ça s'est fait graduellement. Mais je pense que tout l'épisode qui, soit dit en passant, vient aussi, je pense, je manquais d'expérience au niveau de comment présenter aux médias le rapport qui était très volumineux. Les médias ont gonflé énormément aussi.
Est-ce que c'était un autre des pièges à ours de Jean-François Lisée, c'est-à-dire, Paul Saint-Pierre-Plamondon, quelqu'un qui s'est fait remarquer à la chefferie, qui peut être éventuellement un adversaire que je vais garder près de moi en lui donnant le mandat difficile d'aller dire aux péquistes leur cas de vérité?
Non, Jean-François Lisée croyait sincèrement et avait déjà écrit par le passé qu'il y avait une nécessité d'embarquer la quatrième génération. Donc, il identifiait trois générations déjà au combat, déjà convaincues, mais que là, si le Parti québécois n'était pas présent, il n'avait pas vraiment une volonté ferme d'embarquer la quatrième génération, il y avait un problème évident, tant sur le plan des mathématiques que sur le plan de l'impulsion dans ce mouvement-là. Il le croyait sincèrement. Il m'a donné tout l'espace pour le faire. Je sous-estimais qu'il y aurait des réactions, surtout que moi, je consignais ce que les gens me disaient. Souvent, c'était pas moi qui disais un parti qui est comme
là,
ça.
Ça a eu l'air d'être vous, en tout cas.
Ça a été repris comme ça, mais pour revenir à votre point, là, en date d'aujourd'hui, tout ce qui reste de ça, c'est que le parti est beaucoup plus équilibré au niveau des âges. Et il y a une dynamique que je souhaitais, qui est écrite mur à mur dans le rapport. Je voulais voir de l'intergénérationnel, du mentorat, de la collaboration, donc attirer tous les groupes d'âge. Et on est précisément là. Donc, on est sur les bonnes bases pour rebâtir et cet épisode-là, pour moi, ne pose absolument plus d'enjeu aujourd'hui. Là.
Mais là, outre le fait que une grande partie des jeunes politisés, instruits qui étaient autrefois au Parti québécois sont à Québec solidaire, il y a aussi Catherine Fournier, qui incarne mieux que quiconque la jeunesse, la relève au Parti québécois, qui l'incarnait, qu'on a vu à vos côtés sur diverses tribunes, notamment...
dans Oser repenser le pays.
Exactement. Ouais. Qui est parti, qui était ici la semaine dernière, qui nous disait... C'est fini. Ce n'est pas récupérable, le Parti québécois. Elle n'a pas du tout votre optimisme. Comment ça se fait qu'il y ait une divergence à ce point-là entre vos deux points de vue? C'est une question de marque. Elle pense que la marque est brûlée, en quelque sorte, le non-PQ. Comment allez-vous faire pour la rapatrier, si tant est que ce soit possible?
Mais la preuve est dans le pudding, là. Donc, on peut faire chacun nos hypothèses sur l'état du Parti québécois, sur la capacité du côté de Catherine de fonder un mouvement vigoureux sur une base entièrement citoyenne en n'étant pas dans la sphère politique. Mais le temps donne toujours les réponses à ces questions-là. Moi, je pense que le Parti québécois est, en fait, surprenamment dans un état vigoureux. À Trois-Rivières, l'autre surprise pour moi, parce que ma décision était loin, loin, loin d'être prise, j'étais allé avec ma femme et l'histoire de ma candidature en 2020, c'est que des militants sont venus me chercher, ils ont organisé un souper, etc. Mais je voulais aller voir à Trois-Rivières dans quel état se trouvait le Parti québécois après une défaite qui était difficile à... Il y a dans la cause d'indépendance quelque chose de très fort qui fait en sorte que les gens sont extrêmement résilients. Donc, on voyait les mêmes personnes toujours au poste. Un afflux de jeunes qui prennent énormément de place en ce moment dans la façon de changer les statuts, de rénover les façons de faire du Parti québécois, ça a eu lieu.
Donc, mais c'est pourquoi même pas Catherine Fournier dit ça dans ce cas-là? Et pourquoi, par exemple, je pense à Jean-Martin Hossan qui est parti, qui est revenu, qui est reparti, qui semble ne pas revenir cette fois-ci?
C'est que chacun a sa lecture des événements, sa lecture de l'avenir. Puis, comme je vous dis... Moi, ma lecture, c'est que le Parti québécois est surprenamment...
C'est que c'est encore possible.
...solide pour dans les circonstances et qu'il faut rebâtir sur cette base-là. D'autres pensent d'autres choses, mais le temps va donner la réponse. Donc, c'est à chacun de mener son hypothèse, de mener sa théorie, là.
Un autre sujet pour voir où vous vous situez. L'émission achève. Chers auditeurs, je vous rappelle qu'on est en compagnie de Paul Saint-Pierre Plamondon, candidat à la chefferie du Parti québécois. L'axe gauche-droite, on a un peu effleuré la question avec la question des convergences, puis de Québec solidaire, puis de la CAQ. Où est-ce que vous voyez, parce que là aussi, il y a une sorte de défaut d'identité pour le Parti québécois, on ne sait plus très bien où il est de ce point de vue-là. Il s'est fait remarquer, comme d'ailleurs plein de partis de la social-démocratie, en allant un peu plus à droite au pouvoir que lorsqu'il est dans l'opposition. Certains le lui ont reproché, d'autres trouvent qu'il est trop à gauche. Où est-ce que vous mettez le Parti québécois et est-ce que la remise de l'avant de l'objectif d'indépendance est un facteur dans
Bien,
ça?
Complètement. Donc, la journée où est-ce qu'on met de l'avant l'indépendance en un projet tangible, je pense qu'on va changer les dialogues entre conservateurs et progressistes dans le parti. Parce qu'on est toujours, pour une cause supérieure, on est toujours un peu plus prêt à entendre un point de vue qui, a priori, là, est inacceptable, en se disant « Oui, mais en fait, on bâtit quelque chose qui est beaucoup plus important que ce petit débat-là. » Lorsque la cause, elle est faible, lorsque le service de l'indépendance n'est pas au rendez-vous, bien là, à ce moment-là, les gens ne regardent que leurs différences sur un sujet ou un autre. Je l'ai dit clairement dans mon lancement, il faut faire une place aux conservateurs autant qu'aux progressistes. Surtout que...
Mais c'est facile à dire comme ça, mais à notre époque, c'est une sacrée mission.
Oui, mais d'où l'importance de mettre de l'avant le projet d'indépendance, mais d'où aussi, je pense que le PQ doit arriver avec une critique tant de l'extrême gauche que de l'extrême droite. La gauche a changé aussi. Hein? Être à gauche dans les années 80, c'était se réjouir d'un taux de chômage qui est bas. La gauche, c'était essentiellement le projet social-démocrate. Là, la gauche telle qu'elle est portée par Québec solidaire est arrivée avec toutes sortes de notions qui, moi, ne m'inspirent pas beaucoup, là, le communautarisme, une forme d'individualisme dans la façon de parler de la société au nom de la gauche. Véhémente envers des questions identitaires qui sont pourtant, par définition, collectives. Le nationalisme est devenu très, très démonisé, alors que le nationalisme des années 80-90, ben, c'était le Québec qui défend ses intérêts. C'était le sentiment de faire partie d'un tout qui est le Québec, puis tout le monde avait le droit d'être dans ce tout-là, bien évidemment.
Oui, mais c'était délicat quand même. Dans les années 90, aux environs du référendum, le Parti québécois marchait sur des œufs sur la question du nation. On ne prononçait même pas ce mot-là.
Mais je pense que ça a reculé encore davantage. Donc, je fais juste dire que la gauche s'est transformée, la droite aussi s'est transformée je pense que le Parti québécois doit être capable de faire de la place aux conservateurs qui soulèvent des questions sérieuses, comme Frédéric Lacroix tantôt. Je ne sais pas s'il est conservateur, mais il soulève des questions sur le plan de la viabilité de la langue française.
Sa vision sera vue comme conservatrice, certainement, ben, par la gauche dont vous parlez.
Oui, alors que si factuellement, c'est vérifiable, mais là, je regrette, là, mais on va être conservateur sur la langue française. Puis c'est injuste de se faire apposer des étiquettes quand, en fait, Frédéric Lacroix vient porter des faits. Mais au final, je pense qu'il faut assumer la responsabilité qu'on a au Parti québécois de veiller au bien-être de la nation québécoise. Puis ça, ça vient avec des tomates des deux côtés.
Mais c'est ça. Est-ce qu'il reste de la place au milieu? Parce qu'on parlait tout à l'heure de votre concurrent, Frédéric Bastien, celui-là, et non pas Lacroix, dont les propositions pourraient laisser penser un rapprochement tel avec la CAQ que finalement, c'est un peu la même chose, il n'y a plus d'espace pour le PQ. Mais en même temps, si vous dites qu'il faut faire de la place aux conservateurs, c'est un peu ça aussi. Est-ce qu'il reste de la place, de l'espace entre la CAQ et un Québec solidaire dont on peut peut-être penser qu'il va, avec les années, la maturité, se déplacer lentement vers le centre?
Je pense qu'il va y avoir beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Je pense également qu'il y a un paquet de personnes qui ont voté CAQ uniquement pour sortir les libéraux, donc de l'espace pour le Parti
québécois. Y compris
des
péquistes, hein?
Des tonnes de péquistes.
Mais qui sont maintenant, qui ont
c'était la tragédie
traversé la ligne, est-ce qu'on peut les ramener, en fait? Parce que si
on a quelque chose d'emballant et de concret, si on a peur, puis dès le départ, on dit, là, il faudrait pas perdre le troisième référendum si on en faisait un, puis on s'assume pas du tout dans notre façon de parler, on parle de nous-mêmes. Comment le Parti québécois peut convaincre la population québécoise de ne pas avoir peur si le PQ lui-même a peur? Ça fonctionne pas. Donc, je pense que la journée où est-ce qu'on s'assume, on est transparent, honnête, direct, il y a des gens qui ont voté CAQ strictement pour s'assurer que les libéraux ne reviennent pas au pouvoir, qui vont être tout oui pour un PQ renouvelé, un PQ qui regarde en avant, un PQ qui a de l'énergie. Puis vous regarderez comment je mène ma campagne, mais c'est tout le temps des signaux de dynamisme, énergie, positif, le oui, le retour du oui, avec un clin d'œil pour le passé, là, parce que c'est... Donc, il y a beaucoup d'espace pour le Parti québécois. Sauf qu'il faut s'assumer, il faut être direct. Et là, je pense qu'on est rendu là, puis ça se fait un peu naturellement chez les militants comme chez les leaders.
Il nous reste très peu de temps. J'aurais 1000 questions à vous poser, mais il y a une question sur le Bloc québécois. On n'en a pas parlé. C'est le frère fédéral du Parti québécois. Est-ce que sa démarche, selon vous, il s'est mis un peu... Plusieurs ont trouvé qu'il s'est mis à la remorque de la CAQ pour la dernière élection, ce qui vient encore militer pour l'idée là, d'un Parti québécois un peu mal pris à côté de la CAQ.
Supposons
qu'est-ce que vous pensez du Bloc? Bon, est-ce que ça sert à quelque chose?
Si on accepte cette observation-là, là, que je pense qu'il est au moins partiellement vrai, là, que plusieurs des idées véhiculées par le Bloc ressemblaient à la campagne menée par la CAQ, je veux dire, là, il faudrait être très étourdi pour dire « Hey, j'ai une bonne idée pour le Parti québécois, faisons exactement comme la CAQ. » C'est le pire plan possible. Donc, au contraire, il y a deux choses qu'il faut retenir du Bloc. Un, les choses, lorsqu'on dit qu'elles vont mal, elles peuvent changer très rapidement en politique. Et deux, le Parti québécois doit se définir de manière distinctive s'il veut pouvoir faire sa place. Et c'est l'entreprise de rebâtir le PQ autour de notre option qui est emballante. Mais dorénavant, un gars comme moi, je vais vous parler du caractère emballant de l'indépendance, de manière à ce que des gens qui ont voté CAQ tendent l'oreille à nouveau. Même chose du côté de QS, qui, à mon avis, ne sera pas capable de bien porter cette idée-là. Donc, c'est le défi des prochaines années, mais il y a de l'espace. Il y a beaucoup d'espace, à mon avis.
Paul Saint-Pierre Plamondon, avocat, mais aussi candidat candidat à la chefferie du Parti québécois.
À temps plein.
Hein? On en parlera à Guy Nantel, peut-être, du temps plein en politique. On y reviendra sans doute. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Au plaisir.
Chers auditeurs, Nick Payne au microphone qui vous dit à la semaine prochaine. Et merci à Daniel Fortin à la mise en ordre.